Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau CQFR. Je suis accompagné comme d'habitude par Shai Mamou. Shai, il y avait plusieurs matchs au programme cette nuit. Qu'est-ce qu'on retient en premier de cette nuit de basket?
On peut retenir deux choses. À la base, ce que j'aurais aimé retenir, c'était un choc, une preview des possibles finales de conférence entre Boston et Milwaukee. Sauf que Giannis Antetokounmpo n'était pas de la partie. Donc le match a été un peu moins peut-être révélateur que ce qu'on aurait pu aimer, même si il s'est avéré qu'il était plus serré sur la fin. Moi, sur la performance individuelle, j'ai envie de retenir Chet Holmgren quand même.
Okay.
Déjà parce
MVP de la nuit,
MVP de la
part.
nuit sans aucun souci. OKC qui s'est imposé à domicile contre le Jazz, donc ça, il n'y a pas de surprise. Mais Holmgren, sacré match, un de ses meilleurs matchs offensifs, je pense, de la saison. Il a égalé son record, j'allais dire en carrière, il n'a qu'un an de carrière, donc ça me fait toujours bizarre avec les rookies. 35 points, 14 rebonds, et voilà, c'est une petite piqûre de rappel que même s'il ne gagnera pas le titre de rookie de l'année, c'est un rookie exceptionnel, tout simplement, dans le sens littéral. C'est-à-dire qu'on n'en voit pas beaucoup des rookies comme lui. Ses stats. D'ailleurs, si je te pose la question, est-ce que tu en as peut-être en tête? Parce que j'essaie de réfléchir à ça pendant le match. Est-ce qu'il y a des rookies Alors, on considère que ce soit un vrai rookie ou pas, hein, d'ailleurs, avec la saison blanche qu'il a passée. Est-ce qu'il y a des rookies qui ont déjà eu ces stats-là dans une équipe qui était une des deux, trois meilleures de la ligue et numéro un à l'Ouest? Parce que quand tu regardes en termes de pourcentage de production, c'est assez exceptionnel quand même.
Et un certain Tim Duncan, mais...
Voilà. Mais les Spurs étaient pas... les Spurs étaient premiers à l'Ouest quand il était rookie?
Ils sont peut-être pas premiers à l'Ouest, mais après... Bon,
ils sont compétitifs.
Ouais, ils sont dans les deux ou trois premières équipes classées. Je ne sais pas exactement comment étaient les Spurs en 97. Je ne pense pas qu'ils soient premiers. Je pense que le Jazz est devant, mais je ne serais pas surpris que les Spurs étaient deuxième ou troisième à l'Ouest. En fait, on pourrait presque... J'ai envie de te dire, les rookies d'une certaine époque, il y a des mecs qui arrivaient dans leurs équipes, ils tournaient tout de suite à 20-10 en rendant leur équipe plus compétitive, mais c'est des mecs qui passaient 3-4 ans à la fac.
Ouais.
Là, effectivement, un gars qui a 17 points, 8 rebonds, plus de 2 contre, 54% au tir, 39% à 3 points, oui, non, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de traces d'un rookie aussi efficace et performant sur ces dernières années, en tout cas, c'est sûr que non.
Ouais, t'as raison pour Duncan. Duncan, ils font demi-finale de conférence la première année déjà. Donc c'est effectivement
oui, ils perdent très contre le Jazz, futur finaliste. Ouais.
Mais en tout cas, ça m'a un peu frappé parce que tout le début de saison, on a même dit quand on discutait de la course au rookie de l'année, malgré les très bonnes choses que faisait déjà Victor, on disait que Holmgren était un peu devant dans la course parce qu'il, pour ce qu'il faisait statistiquement, pour ce qu'il faisait sur le terrain et ce que faisait OKC. Et du coup, je trouve, moi personnellement, j'avais peut-être un peu oublié à quel point il était. Parce que il y a eu quoi? Il y a eu le mois de janvier qui était un tout petit peu en dessous, je pense, au niveau statistique. Mais là, depuis février, peut-être le tir à trois points qui est un peu moins fiable qu'à un moment. Mais je le trouve incroyable. C'est un super défenseur. C'est un mec hyper productif. Il arrive à claquer des actions spectaculaires. Il met un énorme poster là.
Poster monstrueux la nuit.
Sur un compagnon rookie, Taylor Hendricks du Jazz. Un méchant poster. C'est voilà, je pense qu'il méritait qu'on lui tire notre chapeau ce matin ou qu'on rappelle, même si peut-être que tout le monde, personne n'a oublié, il n'y avait que moi qui a un peu oublié à quel point il était fort depuis cette saison, mais je trouve que ça méritait qu'on en parle un peu.
Ouais, non, mais t'as tout à fait raison de le souligner. Hein. C'est Chet Holmgren, ça reste lui aussi un talent générationnel, je pense, légèrement éclipsé par Wembanyama, comme tu l'as dit, mais pour le coup, il va pouvoir jouer les playoffs. Il est parti pour sans doute faire plus qu'une série. Ça va être une expérience très intéressante pour lui et pour le Thunder, voilà, de pouvoir grandir avec ce mec-là et chez Gildous Alexander, qui pour le coup met aussi 31 points. Eux deux, ils en ont mis 66 donc la nuit dernière. Ouais. C'est vraiment un tandem, un trio même avec Jalen Williams, qui est très jeune et très intéressant.
Et chez Gildous Alexander, donc avec ce que tu soulignais, c'est-à-dire que son match à 31 points, c'est devenu le 13e joueur de l'histoire de la Ligue à inscrire au moins 30 points sur 50 matchs d'une saison. Donc, c'est pas si fréquent, en fait.
Et ça va être ça, l'histoire de chez Gildous Alexander. Mmh. On avait eu un débat comme ça lors d'une late session où avec un auditeur, l'auditeur mettait en avant, notre Laters mettait en avant le fait que pour Shea, il n'y avait pas forcément les espèces de matchs qui retiennent les esprits. Et oui, c'est vrai, ça existe, cette histoire de matchs qui retiennent les esprits, mais parce que c'est pas tant une histoire de match qui retient les esprits, c'est une histoire de narration. Et souvent, autour de quelques matchs comme ça, tu peux créer une narration. Un mec qui a mis 60 points, tu peux créer la narration autour de « Ah, rappelle-toi, il a mis 60 points à ce moment-là de la saison. » Chez la narration, ça va être ça. 50 matchs à 30 points ou plus. elle va être autour de là. Et je pense qu'il est encore très clairement en course pour le MVP.
Bien sûr.
Lui et Jokic. Mais voilà, chez Gilgeous-Alexander,
la constance,
une vraie chance, je pense, d'être MVP.
Constance phénoménale, quoi. C'est un métronome. C'est pour ça, moi, ça m'a interloqué quand j'ai vu que c'était qu'il y en avait que 13 qui avaient fait ça. C'est tellement faible, 13 sur toute l'histoire de la NBA que. Alors, après, il y a pas toujours. Il y en a certains qui n'ont pas pu jouer 50 matchs, peut-être, mais 50 matchs sur une saison où il met au moins 30 points. Et même sans avoir de match à 70 points, c'est moi, j'adore la constance. J'aime bien les joueurs fiables. Tu sais que d'un soir à l'autre, ils seront productifs. Et lui, c'est son cas.
Mais tu sais, il n'y a pas si longtemps, le meilleur marqueur de la Ligue, il tournait à 27-28 points par match. Hein.
Ouais.
C'est les époques de Tim McCobe. Il y a des saisons où Tim McCobe, son meilleur marqueur, avec 27-28 points. Et même une année où Iverson est le meilleur marqueur avec 26 points par match. Ouais. Ouais, c'était une autre NBA. Mais clairement, c'est un accomplissement assez impressionnant. Et ça peut jouer en sa faveur. Allez, on peut enchaîner avec le choc dont tu parlais. Alors, choc un peu tronqué, il manquait Giannis du coup pour les Bucks, comme tu l'as dit, blessé aux ischios, il est finalement été out pour ce game. Il manquait aussi Jrue Holiday du côté des Celtics, donc il n'a pas pu retrouver les Bucks. Victoire de Boston 122-119. Le score est serré à la fin, mais longtemps les Celtics ont été largement en tête. Ils ont profité d'un deuxième quart-temps explosif. Je pense que tu as vu, il y a Patrick Beverley qui a provoqué Peyton.
Doucement.
Enfin, il n'a pas provoqué Peyton Pritchard directement. Il a provoqué Luke Kornet après avoir marqué un panier sur Luke Kornet. Peyton Pritchard a expliqué après qu'il l'avait pris personnellement en mode comment ça tu. Lui, de toute façon, ça se sent.
Il a une tête. Il a une tête à prendre les choses personnellement.
Exactement. T'as raison. C'est écrit sur son gros front que lui, c'est le genre de mec qui a du caractère. Et du coup, il a mis 13 de ses 19 points dans le deuxième quart-temps en mode, mais il aura sorti tout son arsenal en mode, mais à qui tu parles ? Sachant que Beverley, ce qui est intéressant, c'est qu'il est quand même sur le même poste que Pritchard.
Ouais.
Beverley, ça fait bien longtemps qu'il défend plus aussi bien que sa réputation le laisse entendre, au passage. Et donc, du coup, les Celtics ont pris jusqu'à 18 points d'avance. Ils ont plutôt bien géré. Lillard a essayé de ramener les Bucks. Lillard qui a mis 32 points. Mais finalement, c'est bel et bien Boston qui s'impose, 57e victoire de la saison. Et du coup, c'était un choc. Mais il y a 11 victoires d'écart maintenant entre Boston et Milwaukee. C'est plus que l'écart entre le premier et le 9e de la Conférence Ouest.
C'est gigantesque. Ça montre bien à quel point Boston domine la Conférence Est cette année. Et le score, donc oui, ça peut paraître serré, mais Lillard met un panier à 3 points la dernière seconde aussi. Donc en vrai, c'est plus 6, quoi.
Ouais. Dire.
Mais bon, ils continuent, on se demandait est-ce qu'ils vont... tout faire pour faire leur meilleur record, leur meilleur bilan en saison régulière, tout ça. Mais ils jouent tous les matchs sérieusement, c'est aussi une composante de Boston. Là, Tatum, White, Brown, ils font le job à chaque fois. C'est assez impressionnant cette domination de Boston cette année. Parce que Milwaukee a déjà gagné des matchs sans Giannis, hein, et ça aurait pas été un miracle qu'ils battent les Celtics sans Giannis, mais Boston est impressionnant. Boston va être extrêmement dur à battre sur une série entière, sur plusieurs séries à l'Est. Ils auront récupéré Jrue Holiday d'ici là. Enfin, c'est impressionnant, cette équipe.
Ouais, je partage totalement. Je pensais vraiment les grands favoris pour les titres cette saison. Je dirais pas de très loin la meilleure équipe de la Ligue, parce que Denver est quand même plus ou moins dans la même catégorie, mais Boston est quand même, me semble, les grands favoris pour le titre. Juste du côté des Bucks, c'est le deuxième match de suite où Middleton est excellent. Il vient de revenir, 22 points, 6 rebonds, 6 passes, 8 sur 11 au tir. C'est son deuxième match de suite à 22 points. Du coup, à chaque fois en étant un bon playmaker, ça, c'est la bonne nouvelle pour Milwaukee. Milwaukee au complet, faut que Middleton... Si Middleton tient le choc, on aura... Milwaukee me paraît de suite être un cran au-dessus des autres poursuivants à l'Est en tant que deuxième meilleure équipe. Et au complet, Milwaukee peut, je pense, au moins accrocher Boston avec un bon Middleton. D'ailleurs, j'ai écrit un article hier sur Basket Session sur les deuxièmes.
Sur la conférence
Est. Quelle serait la deuxième meilleure équipe de l'Est ? Est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui peut rivaliser avec Boston ? Je pense que Milwaukee au complet avec Middleton, ça manque de profondeur en dehors de ça. Tu vois, on sait qu'il y a Bobby Portis qui sort du banc. C'est pas la même profondeur que Boston. C'est pas les mêmes acquis. C'est pas la même alchimie à ce stade. Mais ça reste une équipe qui, je pense, vaut mieux que ce qu'elle a montré jusqu'à présent.
J'ai lu que
Joe Biden, qu'elle est quand même deuxième.
J'ai lu que Joe Biden et Doc Rivers s'étaient rencontrés. Je sais plus si c'était cette nuit ou il y a quelques jours, genre réunion secrète et tout. J'espère qu'il ne va pas y avoir des décisions contrariantes prochainement de la part des arbitres en faveur des Bucks.
J'espère surtout que ce n'est pas son
conseiller. Est-ce que ce n'est pas Doc qui conseille Biden pour sa tentative de réélection? On va voir.
Ouais, j'espère qu'il ne va pas se faire remonter à un 3-1. Bon, bref. Allez, enchaînons avec le match des Clippers. Tiens, par exemple, c'est le premier qui me venait en tête. Vas-y. Parce que je repense à cette action marrante que tu as postée sur BS. Victoire donc des Clippers contre les Blazers 116-103. Kawhi Leonard 24 points, Paul George 27 points, Harden 19 points, 14 passes et une action défensive de haut niveau.
C'est ça,
sauf que c'était en attaque.
Mais oui, mais pour une fois qu'il défend, il défend sur son pote. Donc mais ça montre bien qu'il est capable il est capable de défendre fort et d'empêcher un mec de marquer. Le problème, c'est que c'était son pote, c'était Kawhi.
Oui, il fait une passe à Kawhi dans le corner et donc Kawhi s'apprête à prendre le tir parce qu'il est ouvert. Donc c'est une super passe. Mais là, d'un coup, dans sa tête, il était déjà revenu en défense et il est allé contester le tir de Kawhi.
Super conteste. Hein,
ouais,
super
c'est grave, conteste. Il y va vraiment franco. Et Kawhi qui rate le tir.
Il est deg après, il est dégoûté après. Ouais,
tu sens qu'il a envie de lui dire un truc après l'action. Il faut vite continuer l'action, mais du coup, il va lui dire: mais what the fuck, man? Qu'est-ce que tu viens faire avec ton gros corps contester mon 3 points ouverts là?
Ça a bien marché. Non, mais après, parfois, je sais pas, avec la fatigue, les fils qui se touchent, ou il y a peut-être un truc à l'entraînement où il y a quelque chose qui ressemble à ça, je sais pas. Ça lui est déjà arrivé de se retrouver dans les mêmes zones que Kawhi par le passé. Dans la conférence Ouest sur des matchs contre San Antonio ou même contre les Clippers, mais j'ai pas trop compris, mais ça donnait un truc marrant finalement.
18 points pour Scoot Anderson du côté des Blazers, le rookie Scoot Anderson, et 8 points 7 rebonds pour notre ami Dominaton.
Ouais, et bon passage
de Ryan Rupert
qui a joué 20 minutes.
Ouais, 20 minutes, il a mis 8 points 5 rebonds 3 passes.
Voilà.
Il s'est montré un petit peu le Ryan Rupert. Allez, victoire de Miami contre Cleveland. C'était un match important de la conférence Est. Cleveland est en course pour la deuxième place. Miami cherche à rejoindre la sixième pour être qualifié directement pour les playoffs. Victoire donc du Heat 107-104. 30 points de Jimmy Butler, 24 de Terry Rozier. Et Terry Rozier qui a eu un passage phénoménal à la fin. Il a mis 9 points en 90 secondes.
L'homme du match.
Une action à 4 points. Ensuite, il met le 3 points pour passer devant à 105-102, c'est le dernier avantage. Et après, il met encore 2 lancers pour assurer la victoire. Mais voilà, Scary Terry a été décisif. Il finit à 5 sur 6 à 3 points d'ailleurs.
Ouais, Scary Terry, mais c'est pour ça qu'ils l'ont recruté. Hein. C'est ce qu'a dit Spoelstra après le match, c'est ce qu'ont dit ses coéquipiers. Son début d'aventure avec le Heat a été un peu tronqué parce qu'il s'est blessé, parce qu'il rentrait pas grand chose. Il est arrivé dans un moment où Miami était sur ils ont fait 6 ou 7 défaites de suite, ça marchait pas très bien. Là, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ils ont besoin d'un mec comme ça qui est capable d'avoir du sang-froid dans le money time et de rentrer ses shoots, qui a peur de rien. C'est un peu le propre de Terry Rozier. Et c'est très bien si ça arrive maintenant, s'il a son pic pile juste avant les playoffs, c'est parfait pour Miami qui va gagner à Cleveland quand même, c'est pas rien. Cleveland du coup qui a pas profité de la défaite de Milwaukee dans cette course pour la deuxième place. Bonne performance de Miami et de Scary Terry.
Il y a eu le premier match de Patty Mills. Alors, il a mis 10 points, il a sauté 1 sur 8 à 3 points, mais Patty Mills, c'est sûr et certain qu'il y a un match de playoff où il va claquer 6 ou 7 3 points, c'est évident. Et n'empêche que c'est rude pour Cleveland, on peut pas trop réfléchir
à ce qu'il va ressembler en playoff, tu veux dire?
Non, on peut pas trop réfléchir. Par contre, je sais pas pourquoi pour Patty Mills, j'ai dit que c'est son premier.
Oui, il a déjà joué.
Il a déjà joué avec le Heat. Il a déjà joué au moins 7 ou 8 matchs, mais bref. Je pense que ça doit être. Par contre, je suis pas sûr qu'il était déjà dans le 5 avant. En fait, ça m'a.
Non, je pense pas.
Mais je pense que c'est son premier match dans le 5.
Juste
pour Cleveland, il y a un calcul très difficile. C'est que je pense que Miami est pas un bon match-up pour les Cavs. S'il y a bien. Tu vois, Cleveland. Je pense que Cleveland est nettement plus solide que l'an dernier. Alors là, ils sont pas au complet. Après, ils vont de toute façon pas forcément se dire... faut pas qu'ils partent perdants quoi qu'il arrive. Mais je pense que Miami n'est pas le meilleur match-up pour Cleveland. Mais le problème, c'est que si tu te dis... Allez, si on finit deuxième, a priori, on peut éviter un Heat qui serait sixième. Mais le Heat est septième pour l'instant. Tu peux vraiment faire aucun pari. Tu ne sais pas où va finir le Heat. Donc, tu ne peux pas vraiment calculer. Mais je pense que ce match-up, avec l'expérience du Heat, sera un match-up plus compliqué pour Cleveland, évidemment, que si tu jouais Indiana, même Orlando, après Orlando semble bien accroché à sa cinquième place, tu vois, Philly éventuellement sans Joel Embiid.
Je pense que Miami, c'est un bon match-up pour personne, en fait. Enfin, c'est personne, c'est plutôt dans le sens...
Je continue de dire que les Bucks, ils ne devraient pas avoir à craindre bien sûr, que ce soit autre que Boston.
Ils ne devraient pas, mais je pense que n'importe quelle équipe, quel que soit son classement, n'a absolument pas envie de croiser la route du 8 en play-off. Je pense que même Boston, je pense presque que Boston préfère jouer Milwaukee sur son parcours que Miami.
Vous êtes à chaque CQF, tu penses?
Je pense. Je dis pas alors, que, non, je dis pas contre, que Miami va la finale
ouais, conférence. Plus sérieusement, je pense que Milwaukee est meilleur. Oui, mais je pense qu'effectivement, dans la configuration de Boston, avec la défense de Miami et surtout tout l'aspect tactique qui rentre en compte, effectivement, Miami peut potentiellement peut-être gêner un peu plus Boston, mais je pense qu'il n'y a aucune des deux équipes qui pousse Boston en 7 matchs.
Je dis juste le sentiment, c'est le sentiment de l'équipe au moment où ils se disent on va affronter Miami, ils se disaient merde, ils vont encore jouer 10 fois plus dur que ce qu'ils ont fait en saison régulière. L'autre, il va se transformer en Michael Jordan, ça va nous saouler. Enfin, tu vois, je vois la posture un peu, je dis pas du tout que Miami va gagner, hein. Oh là, très très loin de là. Et Boston me paraît 10 km au-dessus, mais je sais pas, j'ai l'impression que. Demandons aux fans des Celtics s'ils préfèrent jouer les Bucks ou le Heat, par exemple.
Mais, ouais, voilà, j'aimerais bien cette réponse. Il y a un truc qu'il faut prendre en compte sur Milwaukee, par exemple, et je pense aussi pour Boston. Giannis, c'est un grand joueur. C'est un grand joueur.
Bien sûr.
Un grand joueur, il a une certaine mémoire, tu vois.
Mm-hmm, ouais.
Ouais. Moi, je peux te dire qu'il attend un premier tour contre le Heat.
ouais, possible, ouais.
Et j'ai très hâte de voir Tyler Herro défendre sur Damian Lillard.
Vous noterez le scepticisme.
Jimmy Butler défendra pas 40 minutes sur Damian Lillard. Je vous l'annonce tout de suite.
Ouais,
s'il y avait une série. Il défendra pas 40 minutes sur Damian Lillard. Le fera peut-être par séquence, mais il défendra pas 40 minutes sur Damian Lillard.
On verra bien.
On verra. J'ai hâte de cette série. Il y aura un peu d'animosité dans la rédaction.
Mais fan des Celtics, dites-nous vraiment si vous avez.
Non, mais ça se tient, je comprends.
Mais pour moi, Boston va gagner largement, enfin, va aller en finale NBA, j'ai aucun doute là-dessus. Juste vraiment, au moment du tirage, au moment de voir quel adversaire tu tombes, je pense qu'ils se diront que les Bucks leur font moins peur que. Peur, ça sera un grand mot, mais ça va les saouler de jouer le 8. Moi, ça me saoulerait de jouer cette équipe. Parce que c'est pas la même évident. Que tu auras joué en saison régulière. C'est juste
puis,
ça.
Puis il y a une profondeur. Tu vois, par exemple, là, le 5, c'est encore un 5 différent du hit. Tu sens qu'il y a. En fait, il y a 10 mecs. À Miami, ils peuvent jouer, il n'y aura pas de faiblesse, quoi. Ils vont être là, ils vont jouer, ça va jouer vraiment au basket. Et ça, en playoff, pour moi, ça fait une différence. Tu vois. Ouais. Quand tu es capable. Et d'ailleurs, c'est un atout de Cleveland, je trouve, par rapport à la saison dernière, c'est le fait d'avoir beaucoup plus de mecs prêts à jouer. Tu as les Max Strus, les Isaac Okoro qui a progressé, etc.
Mais c'est Caris vrai que,
à Miami, entre les Caleb Martin, Duncan Robinson, qui était absent hier, Patty Mills, Rémi Raquez. Terry Rozier, Jimmy Butler, Bam Adebayo qui était absent hier. Sauf que Miami, il y avait des accents du côté de Cleveland, mais il y en a aussi du côté de Miami. Quoi. Il n'y avait pas Duncan Robinson, pas Bam Adebayo.
Ouais.
Bon, allez, enchaînons vivement cette série.
Ouais.
Golden State a battu Memphis 137 à 116. Donc, très gros match de Jonathan Kuminga. Peut-être le meilleur match de sa saison. 26 points, 22 points 10 rebonds pour Andrew Wiggins, 23 points pour Klay Thompson en sortie de banc, 14 points pour Stephen Curry seulement, entre guillemets, mais il a passé la barre des 300 paniers à 3 points sur une saison. C'est la cinquième fois qu'il le fait. C'est arrivé que 7 fois dans l'histoire qu'un mec mette 303 points ou plus, et 5 fois c'est Stephen Curry.
Ouais, bah c'est un monstre, tout simplement. Ça. On va voir, on en a. On va rien révéler, c'est pas un mystère. Dans ce match, Chris Paul, 14 passes d'ess, pas mal, non? C'est bien.
Pas mal. De toute façon, le combo Chris Paul, Klay Thompson en sortie de banc.
Ouais. Mais bon, je suis content que les Warriors aient enfin gagné un match à domicile contre une équipe largement inférieure, parce que j'avais l'impression que c'était presque mission impossible pour eux, qu'à domicile, c'était toujours la cata. Là, ils ont quand même fait le job assez correctement. Heureusement quand même, parce que c'est des Grizzlies... Totalement déplumé, décimé. Voilà, c'est bien pour les Warriors, la lutte pour la 9e, 10e place est encore, c'est encore en jeu. Et j'ai bien aimé Chris Paul sorti de banc 14 passes, c'est quand même bien.
Allez, en speed, les Pacers ont battu les Pistons 122 à 103. voilà, Haliburton et Siakam ont fait le taf. 20 points, 9 passes pour Haliburton qui a fait preuve d'adresse 9 sur 13. 25 points pour Pascal Siakam. Du côté de Détroit, voilà, 22 minutes pour Evan Fournier. 5 points, 3 rebonds, 4 passes. Voilà, je vais juste lire les scores. J'ai rien regardé sur ce match.
C'est juste bonne opération pour Indiana du coup qui,
oui,
qui reprend la 6e parce que dans le même temps, Philadelphie a perdu.
Exactement. Indiana qui garde d'ailleurs une victoire d'avance sur Miami. Miami est 7e. Philly a donc perdu contre Phoenix, 102 à 115, victoire des Suns. 9 paniers à 3 points pour Grayson Allen. Qu'est-ce qu'il est chaud patate. Justement, je parlais de Stephen Curry, le mec qui a le plus de cette saison de matchs avec 9 3 points ou plus. Je crois que c'est Grayson Allen derrière Stephen Curry. Il finit à 32 points, 18 points en space pour Booker, 22 points pour Kevin Durant, victoire des Suns. Et ouais, leur troisième homme cette année, c'est pas Bradley Beal, c'est Grayson Allen. Beal qui finit d'ailleurs à 3 points, 7 passes.
Bonne chance, nous souffle Théo dans l'oreillette, effectivement. Alors, c'est parce que Grayson Allen fait une excellente saison régulière, mais Grayson Allen, dans mon souvenir, j'ai pas de bons souvenirs de Grayson Allen en playoff. C'est un peu ça le. C'est le genre de joueur qui est un peu plus en difficulté, je trouve, qui s'exprime moins bien en playoff et ça va être un bon challenge pour lui. Ça faisait partie des doutes qu'on avait en début de saison sur la capacité des joueurs. Nurkic aussi est beaucoup moins fort en playoff notamment. Mais voilà, on ne peut rien dire d'autre que c'est impressionnant de le voir marquer autant et d'être le troisième gars cette année des Suns, qui sont toujours à la recherche d'alchimie, presque d'identité. Mais bon, on va leur laisser la chance de s'exprimer en playoff.
Ils ont signé Isaiah Thomas qui a joué 2 minutes. Il a fait une passe d'ess. Ouais. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas joué à NBA. Et dernier match de la nuit, celui entre Sacramento et Toronto. Les Kings sont allés gagner à Toronto contre des Raptors qui, honnêtement, ressemblent à rien. Victoire 123-89. Un triple-double pour Domantas Sabonis. 13 points, 17 rebonds, 10 passes. 20 points de Aaron Fox. 17 points de Malik Monk en sortie de banc. Voilà.
51e double-double consécutif pour Sabonis qui se rapproche de Kevin Love.
Je pense qu'il sera soulagé le moment où il battra ce record.
Je pense.
Pesant.
Il est capable de le porter jusqu'à la fin de la saison, de faire des doubles-doubles.
Prendre des rebonds, j'ai l'impression que ça pose vraiment pas de problème.
C'est pas trop compliqué pour lui.
Il n'y a personne d'autre qui va au rebond à Sacramento.
Et 8e défaite de suite des Raptors qui sont totalement en roue libre.
Et ça m'a rappelé que Bruce Brown, au final, s'était retrouvé bloqué aux Raptors. Il n'y aura pas une campagne de playoff avec Bruce Brown, quoi.
Ça va, il est bloqué avec un bon petit salaire.
Avec un bon salaire, évidemment. Mais
il a toujours sa bague à traîner. Une petite demi-saison bloquée, c'est pas très grave. Il rebondira ailleurs.
Je pense qu'il y a des joueurs. Je peux te citer quelques joueurs des Raptors. Tu me dis si honnêtement tu les connaissais ou pas. T'es prêt?
Vas-y, c'est de la génie.
Mouamadou Gueye.
Oui. Okay. Non, si, vraiment, il était drafté. Pas drafté par Atlanta, un truc comme ça.
Je sais pas. Un autre. Jamius Ramsey.
Ah, déjà, juste le prénom, je peux dire que non, je le connais pas.
Jamius, il y a... c'est en deux fois en plus. C'est Jamius.
Ok.
Voilà, attention, j'en ai un autre. Javon Freeman Liberty. Liberty.
Oui, alors figure-toi que oui. Non, mais il avait été excellent en Summer League. Summer League, c'était MVP de Summer League pour les Raptors. T'as cru que tu m'aurais ou pas? Non, mais attends.
C'est bien, tu suis bien. Après, il y a le frère de. Il y a Javonte Porter. Bon, ça, c'est... Ouais. Javonte Porter, pardon. Javonte Porter, c'est un autre. Javonte Porter, c'était un peu plus simple. Bon, allez, on va s'arrêter sur ce mini-quiz Raptors. T'as été bon au final, tu connais.
On fera ça dans une late session. On essaiera de faire le jeu qui...
Je vais être mauvais, il y en a où je vais être mauvais. Moi aussi. Je pensais être bon à ça, mais au final, non. Pas tant que ça.
Le jeu qu'ils font à Charles Barkley à chaque fois, sauf que lui, c'est des joueurs qui ont 10 ans d'expérience en NBA. Il sait ni qui c'est, ni dans quel club il joue. C'est toujours assez marrant, ouais.
Yes, bon allez, on va se laisser là-dessus. Cet après-midi, justement, on parlait de Late Session, il y aura le replay de la Late Session sera disponible et on se retrouve.
Il y aura aussi, parce que du coup, si vous avez suivi la chaîne hier, on a fait une petite preview du tournoi NCAA, de la March Madness. Hier, c'était chez les garçons avec Loan. On a fait ça avec Loan. Je vous conseille d'aller voir ça si vous vous intéressez ou si vous n'êtes pas encore intéressé à la March Madness qui démarre ce soir chez les gars et demain chez les filles. Et il y aura donc dans l'après-midi aussi. L'épisode preview sur le tournoi féminin qui est le plus de hype de son histoire avec Caitlin Clark et compagnie. On en parle cet après-midi sur la chaîne aussi.
Yes, donc allez checker ça s'annonce très intéressant et passionnant. Donc pensez bien à aller regarder cette vidéo si vous êtes fan de NCAA ou non. Sur ce, on va se laisser, on se retrouve demain pour un nouveau CQFR. Bonne journée à tous. Ciao ciao.
Ciao.